Pourquoi parler d'une quête ? Eh bien parce que ce n'est pas si simple que ça de définir ce qu'est l'impact pour une entreprise aujourd'hui. C'est tellement pas si simple qu'il faut mener certaines investigations poussées pour déterminer quels sont les impacts positifs que l'on peut attribuer à telle ou telle entreprise.
Et c'est en investissant dans des entreprises qui mitigent bien leurs impacts négatifs inhérents à leur secteur, tout en tentant de générer un impact positif, que l'on va réussir à répondre aux grands défis de notre monde avec notamment celui qu'il devient urgent d'endiguer, celui du changement climatique. Grâce à nos invités, que nous avons sélectionnés parce qu'ils incarnent cette volonté de changement profond, nous allons tenter de mener l'enquête pour être certains que chaque euro investi génère dorénavant un impact positif.
Je suis Marc Vamser et je vous donnerai le point de vue du banquier investisseur.
Je suis Paul Allard et je vous donnerai le point de vue de l'entrepreneur. Bonjour à tous. Nous sommes extrêmement fiers, Marc et moi, de recevoir quelqu'un qui est assez connu dans le secteur de la finance durable. Philippe Zawati, bon matin. Philippe, très heureux de t'avoir sur notre podcast.
Bonjour Paul, merci.
On va plonger directement en Philippe. On va te demander d'où viens-tu, Philippe? Quel a été ton parcours? On viendra ensuite sur ce que tu fais au niveau professionnel, mais d'où viens-tu?
D'où je viens? Écoute, je suis né à Marseille il y a longtemps maintenant. Trop longtemps. Et donc, je suis un provincial qui est monté à Paris, comme on dit, de façon un peu balsacienne. J'ai vécu les 20 premières années de ma vie dans la cité phocéenne à Marseille. C'est là que j'ai fait le début de mes études. Et puis j'ai rejoint Paris à l'âge de 20 ans pour terminer mes études universitaires dans une école de statistique et d'économie. Disons que c'était pas forcément un choix vraiment immédiat pour moi, mais disons que en France, le système d'éducation est fait de telle sorte que quand on est bon en mathématiques, on est poussé à faire des mathématiques. Donc, j'ai été poussé à faire des mathématiques, alors que spontanément, mes intérêts étaient probablement beaucoup plus portés sur la philosophie, la littérature, l'économie, la politique. Et donc, c'est des choses que j'ai essayé sans doute de retrouver un peu par la suite.
Et du côté familial, est-ce qu'on te poussait sur cette voie de, comme on était bon en mathématiques, allez, on fait des stats, on fait de la maths, ou c'est le système qui t'a poussé vers cette voie?
Non, c'est vraiment le système. Non, de point de vue familial, on m'a poussé à faire des études, à réussir, ça c'est sûr. Ça, il y a une très, très forte, non pas, je vais pas utiliser le mot pression, mais disons un très fort intérêt familial, un soutien extrêmement continu et pour réussir, pour s'extraire de d'où on venait, quoi. Enfin voilà, moi je sais d'où je viens, quoi. On vient d'un milieu modeste dans les quartiers à la frontière des quartiers nord de Marseille. J'étais dans un collège qui aujourd'hui est classé parmi les 1% pires collèges de France en termes de résultats. C'est de là d'où je viens. Et donc, c'est sûr que les études ont toujours été vues par mes parents, par ma famille, comme un élément essentiel de construction de soi et d'intégration à la société. Et donc, j'ai été beaucoup, beaucoup poussé à faire des études et à réussir. Oui.
Donc, une fois à Paris, diplôme en main, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu te diriges?
Bah, il faut se remettre un peu dans le contexte, hein. C'est le fin des années 80, on va dire, début des années 90. C'est le moment où en fait on est dans le début d'une grande vague libéral, de marché un peu décomplexé, à un moment où effectivement tout ce qui est réussite économique, réussite financière et de façon générale la finance sont des secteurs qui attirent un peu tout le monde. Hein, tous les ingénieurs ont envie de devenir trader et donc assez naturellement je vais vers la finance. Et donc je commence à bosser en essayant de mettre à profit toutes mes connaissances, notamment en mathématiques, en économétrie, en économie, au service d'une finance qui est en train de changer radicalement pendant cette période-là, qui est en train de devenir, qui est en train de passer de d'un artisanat à quelque chose qui est en train de devenir extrêmement complexe, très outillé, très quantitatif. Hein. Et donc, ce que je fais à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle de la gestion quantitative.
Et c'est l'époque, je crois, où la finance est absolument déréglementée, après que Clinton ait tout le mouvement de déréglementation qui permet justement...
Exactement. Et donc, en fait, moi, je commence à travailler sur des outils en fait qui viennent de la recherche académique qui s'est développée dans les années 50, 60, 70, hein, c'est de Sharpe, Markowitz, Milton Friedman, etc. Donc Black and Scholes, enfin voilà, toutes ces évolutions académiques qui ont apporté des outils au monde financier. Et effectivement, en parallèle de ça, une très forte déréglementation avec le début des marchés à terme, début du BATIF, donc le marché à terme sur les instruments financiers, des futurs, des options. Et donc, c'est la combinaison de tout ça qu'on utilise pour créer cette nouvelle façon de voir la finance, cette nouvelle façon de gérer. Donc je suis un des pionniers, un des tout débuts de la gestion quantitative. Et donc, j'essaye d'expliquer à ce moment-là à mes clients qu'il faut éliminer toute intervention humaine, toute émotion humaine, parce que c'est pas bon, les émotions humaines, ça fait faire des bêtises, et que il vaut mieux modéliser tout ça dans des équations, et qu'en faisant ça, on élimine les problèmes, et donc on va aller vers une rationalité beaucoup plus forte. Voilà.
Et quand tu dis ça, je te vois sourire. Qu'est-ce que tu...
Voilà, je souris parce que je souris un peu comme quand quelqu'un commence une blague dont on connaît la fin, en fait. Et donc, je connais la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est précisément celle qu'on a connue 20 ans plus tard, au moment de la crise financière en 2007-2008, qui est un peu l'aboutissement, en quelque sorte, de deux, trois décennies de déréglementation à outrance, de croissance exponentielle des marchés, de complexification des instruments financiers, et qui amène à la situation des subprimes de 2007-2008, où plus personne ne comprend rien et où le marché explose, quoi. Donc voilà, effectivement, ça fait sourire d'imaginer qu'on y a cru à cette situation dans les années 80-90. En fait, on a cru qu'effectivement, notre intelligence allait révolutionner et stabiliser la finance, alors qu'au contraire, je crois que notre intelligence l'a amené un peu dans le mur, quoi.
Est-ce que c'est la grande époque, Marc, avant que tu poses ta question, est-ce que c'est la grande époque où on a vraiment testé la finance qui était une fin en soi pour elle-même et on a vu la limite de cela, justement, avec la crise de 2008, et que ça a été une première prise de conscience? Est-ce que c'est comme ça que tu le décrirais?
Oui, très clairement. En fait, par définition, on a inventé une finance complètement différente pendant ces années-là, parce qu'on a créé des effets de levier absolument inédits. Alors la finance est toujours basée sur des effets de levier, hein, puisqu'on a un peu de capital et on en prête toujours un peu plus, hein, c'est le système bancaire qui est fabriqué comme ça. Mais là, on a, à travers les produits dérivés notamment, inventé un effet de levier et de déconnexion qu'on n'avait jamais vu avant. C'est-à-dire que on a, à travers par exemple le marché des prenons un marché très simple par exemple, enfin très simple, un marché comme les CDS, les Credit Default Swap, c'est-à-dire ce sont des instruments qui permettent de se couvrir contre la faillite d'un État notamment qui émet des obligations, et donc si on craint que l'État en question ne rembourse pas ses obligations, ben on a un instrument d'assurance, de couverture qui s'appelle un CDS. Donc ça peut paraître tout à fait logique, comme ça c'est une prime d'assurance et on se couvre. Voilà, sauf que dans le cas par exemple de ce qui s'est passé au niveau de la dette grecque il y a une dizaine d'années, eh bien le montant qui s'est échangé de CDS, donc de primes d'assurance de couverture sur le marché, s'est avéré 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, 100 fois plus important que le montant total de la dette grecque elle-même. Donc on a créé des espèces de bulles énormes qui ont eu des tailles qui n'avaient plus du tout de lien avec les sous-jacents, c'est-à-dire avec la réalité économique qu'il y avait derrière. Et donc c'est ça en fait la grosse problématique de la finance. Et du coup, forcément, c'est une finance qui par définition travaille pour elle-même puisque elle est déconnectée de son sous-jacent. Et donc on s'échange donc du coup des instruments entre acteurs financiers sans ne plus réfléchir vraiment à quel est le fondement initial, de quoi on est en train de parler, quel est le sous-jacent effectivement qu'il y a derrière. Donc oui, c'est un changement réellement structurel en fait qu'on a connu pendant ces années-là en fait. Et qui d'ailleurs je peux juste terminer là-dessus, qui d'ailleurs n'est pas terminé. Parce que là, j'ai l'impression de parler de ça comme si c'était quelque chose qui avait eu lieu à un moment et qui avait disparu depuis, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que cette situation des marchés qui est née dans les années 80-90, c'est toujours la situation des marchés que l'on connaît aujourd'hui, même si on a rajouté quelques correctifs en termes de régulation, de finances durables ou quoi que ce soit d'autre, mais globalement on est toujours dans la même situation que celle qu'on a connue au moment de la crise financière de 2007-2008.
Comment tu t'es rendu compte que c'était justement il n'y avait plus forcément de sens derrière ou on était allé trop loin? Est-ce que c'est justement au moment de ces crises-là ou est-ce que c'est en amont?
La crise financière est un moment clé. La crise financière est un moment clé. Alors, il se trouve que dans mon parcours personnel, elle est arrivée à un moment très particulier, puisqu'elle est arrivée à un moment charnière de ma carrière, puisque je suis arrivé chez Natixis le 1er juin 2007, c'est-à-dire juste quelques semaines avant le déclenchement de cette crise. Et donc, c'est cette combinaison à la fois de gros changement de carrière, parce que je venais de passer presque 10 ans au Crédit Agricole, donc un changement assez important. Premier vrai gros poste de direction générale, en fait. Hein, j'étais numéro 2 de la gestion d'actifs Natixis à Paris. Moment aussi très particulier, puisque au milieu d'une fusion entre deux banques, hein, puisque Natixis était né de la fusion des banques d'affaires, des caisses d'épargne et des banques populaires. Et la crise financière qui arrive à ce moment-là. Donc, ça fait une conjonction en fait d'éléments qui fait qu'à la fois, j'ai une meilleure compréhension de ce qui se passe, beaucoup plus de leviers d'action, et une prise de conscience de ce qui se passe qui est assez acéré, on va dire, parce que vraiment je me confronte vraiment là à la réaction des clients, à une situation où en réalité on a failli s'écrouler. Enfin, il faut dire les choses telles qu'elles sont. La banque elle-même, Natixis, a failli faire faillite, a été pas très loin de faire faillite et de disparaître comme a pu disparaître Dexia à ce moment-là. Hein. Donc on est quand même dans un moment très très particulier et donc il se trouve que bon, à la fois, je me dis, il faut essayer de faire autre chose, de voir comment est-ce qu'on peut utiliser la finance différemment. Et puis, je fais beaucoup de rencontres à ce moment-là de gens qui commencent à s'intéresser à ces sujets d'investissement, notamment dans le développement durable, puisque on est aussi à un moment où le sujet du climat est en train de prendre une tournure beaucoup plus forte. Là aussi, il faut se rappeler historiquement, on est 2007-2008, donc juste avant la première COP qui a été très médiatisée, qui est la COP de Copenhague, en 2009, qui était censé être un grand événement où les États devaient se mettre d'accord pour un accord très structurant. Et puis ça a été un échec assez fort. Là aussi, voilà, cette prise de conscience que le sujet climat est en train de monter a été pour moi une double réflexion, à la fois une réflexion, je dirais, éthique et morale et personnelle, de valeur, puis une réflexion business aussi, hein, je veux dire, il faut pas le cacher, une réflexion business dans le sens où j'ai le sentiment à ce moment-là que ce sont des sujets qui vont devenir des sujets importants dans le monde financier. Donc, disons que c'est un peu là peut-être qu'il y a eu un peu d'anticipation de vision, on va dire, sur ce qui allait se passer par la suite.
Donc là, tu es chez Natixis dès 2007, tu vis la crise 2008, tu vois Copenhague et le semi-échec, parce qu'effectivement, Copenhague en 2009, ça a été pas nécessairement une référence. Et qu'est-ce qui se passe, où chemines-tu en termes professionnels?
En fait, à ce moment-là, je commence à effectivement me rendre compte qu'il existe des gérants, des sociétés de gestion qui font les choses différemment, c'est-à-dire qui font des choix assez marqués, soit dans le domaine social, soit dans le domaine environnemental. Et notamment une équipe au sein de Natixis qui fait ce qu'on appelle de l'investissement socialement responsable, l'ISR. Voilà. Et donc, je commence à regarder ce qu'ils font et assez étonnamment, je me rends compte qu'on est, il se trouve un peu par hasard, hein, j'allais dire, il se trouve qu'on est les leaders en France de ce domaine, de ce sujet-là, par héritage, puisqu'en fait, en héritant de ce qui venait du côté des caisses d'épargne, c'est-à-dire de la Caisse des dépôts, et de ce qui venait des banques populaires, eh bien, on hérite de la position dominante sur ce sujet de l'ISR en France. Je suggère, je propose à mes collègues de la direction générale de Natixis Asset Management à cette époque-là de pousser cet avantage un peu plus loin en disant mais puisqu'on est leader là-dessus et que on est en train de vivre une crise très forte et que je pense qu'on est à la croisée des chemins et qu'il faut par ailleurs en plus inventer une nouvelle un nouveau positionnement pour cette nouvelle marque, eh bien utilisons ce sujet d'investissement responsable comme un élément clé, un élément fort de notre différenciation sur le marché. Et là, je fais face à une résistance, c'est même pas une résistance. Enfin, je me suis fait envoyer balader, quoi. Je veux dire, pour dire les choses, on m'a dit d'aller voir ailleurs si j'y étais. Voilà, il y a eu une énorme résistance de la part de tout le monde, enfin, c'est-à-dire de la direction, des gérants qui me disent non, ça n'a aucun sens. Enfin, l'ISR, c'est très bien, mais l'ISR, ça représente 1% de nos actifs et c'est très bien. Laisse-les là dans leur coin qui fassent 1% de nos actifs, mais ne viens pas nous dire qu'il faut gérer les 99% de la même façon. Ça n'a aucun sens. Et donc là, je commence à discuter avec ces gens-là pour essayer de comprendre en fait pourquoi il y a cette réaction aussi violente en fait, parce que c'était une réaction assez violente. Je m'intéresse un peu à l'histoire de l'investissement responsable depuis plusieurs siècles. Donc c'est ce qui a donné naissance au premier bouquin que j'ai écrit sur le sujet en 2009, donc où je refais un peu le panorama de l'histoire de l'investissement responsable depuis le 15e siècle. En passant par tout ce qui s'est passé ensuite au début du 20e, puis avec les mouvements sociaux de la fin du siècle, etc. Je me dis bon, c'est sûr que j'arriverai pas à convaincre l'ensemble de la structure de devenir une structure d'investissement responsable en totalité. Et petit à petit, l'idée qu'il faut faire un test commence à émerger. Et donc entre 2009 et 2012, je travaille à ce projet qui est de dire ben puisqu'on n'arrive pas à faire ça sur 300 milliards, bon ben faisons-le avec 3 milliards, mais essayons de démontrer que ça marche. Faisons un proof of concept, comme disent les informaticiens, et essayons de démontrer qu'on peut faire un business qui est profitable, efficace, rentable, qui peut se développer, qui répond à des besoins clients. Mais qui est très intransigeant sur la question de l'impact, sur la question des impacts environnementaux et sociaux, donc de la conviction en fait qu'on a dans notre gestion. Et donc c'est ce qu'on a fait, c'est ce qui a donné naissance à Mirova donc en 2012.
Donc c'est ça qui a amené à Mirova. Et comment est-ce que tu as fait le saut, parce que tu étais à la direction générale du vaisseau amiral, et là tu décides de, c'est un semi-saut entrepreneurial parce que tu étais évidemment backé par Natixis, mais qu'est-ce qui a fait, comment est-ce que tu as pris le défi, est-ce que tu hésitais ou t'as pas hésité du tout?
Non, j'ai pas hésité. Bon, après c'est il se trouve que ça collait assez bien avec l'évolution de Natixis qui voulait aller vers une organisation beaucoup plus multi-boutique avec plusieurs boutiques, donc ça allait tout à fait dans ce sens-là. Bon voilà, c'est un petit saut, hein, c'est un saut avec un pas avec un
beau parachute.
et donc voilà, j'ai jamais fait de l'entrepreneuriat au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire aller lever beaucoup d'argent et créer un nouveau projet. J'ai fait beaucoup d'intrapreneuriat dans ma carrière. Donc c'était pas la première boîte que je créais ou que je développais à l'intérieur d'une grosse structure. J'avais déjà fait ça au Crédit Agricole quelques années avant. J'ai une envie d'entrepreneuriat, mais effectivement, j'aime bien avoir un parachute. Donc, c'est comme ça. C'est une question générationnelle aussi. Je pense que quand je faisais mes études à la fin des années 80, on parlait très peu d'entrepreneuriat. On avait tous envie d'aller bosser dans des grandes boîtes et de devenir dirigeant de grandes boîtes. Donc, c'est vrai qu'on n'est plus du tout dans la même génération aujourd'hui. Mais j'ai fait ce saut avec grand plaisir, et parce que j'avais envie de développer quelque chose, quoi. Voilà, c'est quand même ce plaisir de partir de presque rien, ou en tout cas d'une idée, d'une conviction, et d'essayer de la pousser pour en faire quelque chose qui a vraiment du sens.
Et aujourd'hui, juste pour donner quelques idées à nos auditeurs, est-ce que tu pourrais nous donner les principaux chiffres de ce qu'est Mirova aujourd'hui, les principales activités? Et la question d'après, c'est quels ont été les principaux défis rencontrés pour passer de la création jusque ce qu'est Mirova aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, donc Mirova, on gère à peu près 30 milliards d'actifs, un tout petit peu moins. On est 250 personnes. On a surtout réussi à faire une boîte qui est extrêmement diversifiée, très internationale. Donc, on a des équipes à Paris, à Londres, à Boston, à Lima, à Nairobi, à Singapour. Et on travaille sur un spectre extrêmement large de classes d'actifs, parce que c'était un peu aussi un des points de départ. On s'est dit, finalement, si on veut démontrer que la finance peut être un outil pour financer le développement durable, bien, il n'y a aucune raison de ne pas utiliser tous les outils que la finance met à notre disposition. Enfin, tous les outils que nous, on considère comme des outils raisonnables. On n'allait pas faire des CDO ou des choses qui n'ont pas de sens. Mais en tout cas, on a essayé d'utiliser toutes les classes d'actifs. On a encore une grosse partie de nos actifs qui sont dans des marchés listés, donc marchés cotés, donc les actions, des obligations. On a été parmi les premiers à développer des obligations vertes, notamment, dès 2012-2013. Et puis, on s'est développé sur tout ce qui est marché privé, non coté, donc à travers des fonds infrastructures, sur les énergies renouvelables, sur la mobilité, maintenant sur les batteries, sur l'hydrogène. On fait du private equity, on fait de l'économie sociale, du financement de l'économie sociale et solidaire, on fait de l'investissement dans ce qu'on appelle le capital naturel, c'est-à-dire l'agroécologie, les forêts, les océans, les crédits carbone. Donc, on a un spectre vraiment extrêmement large d'activités, avec une activité dans les pays développés et dans les pays émergents. Ça aussi, c'est un choix très fort qu'on a fait depuis maintenant un certain nombre d'années. Donc aujourd'hui, sur nos 30 milliards, on a 1 milliard qui est investi dans les pays émergents. Ça paraît pas beaucoup, mais si on compare ça par rapport à ce que fait le marché aujourd'hui, c'est énorme, parce que il y a très peu de gens qui aujourd'hui s'y collent, quoi. Et donc aujourd'hui, on gère 1 milliard, et ça va se développer de façon assez importante, avec 25 personnes à Nairobi qui font du financement dans le solaire et l'énergie renouvelable, avec des projets d'agroécologie en Amérique latine, en Asie, en Afrique. Voilà, donc ça c'est les choix un peu structurants. Alors après, comment on est arrivé à ce niveau-là et quelles ont été les difficultés. C'est 10 ans d'histoire avec des phases qui sont très différentes. Hein. Donc, je dirais qu'il y a une première phase qui est entre 2012 et 2015, où on est dans un monde un peu hostile, en fait, il faut bien le dire. Enfin, hostile ou en tout cas où il se passe rien, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de, il n'y a pas d'accords internationaux. On peut pas s'appuyer sur quelque chose. Très peu d'engagements sont pris par les financiers, donc on nous regarde avec des grands yeux, on est un peu un animal complètement un peu à part, quoi. Puis ensuite, il y a 2015 qui est
au début, Philippe, au début, donc, cette période où tu prêchais dans le désert, tu avais combien d'actifs sous gestion à cette époque?
On était entre 3 et 5 milliards.
Ah ouais.
Donc là, oui, effectivement, on prêchait un peu dans le désert. Et en 2015, ça change évidemment complètement parce qu'il y a l'accord de Paris, parce qu'il y a les objectifs de développement durable, parce qu'il y a le discours de Marc Carnet, enfin parce qu'il y a tout ça, quoi. Donc qu'en 2015, il y a cette prise de conscience un petit peu générale avec l'accord de Paris, avec les ODD, les objectifs de développement durable, avec le discours de Marc Carnet. Donc une prise de conscience complète que d'une part, on peut pas faire sans la finance, et puis d'autre part, que la finance elle-même va être impactée par ces sujets de notamment de crise climatique. Et donc là, on arrive dans une deuxième phase, j'allais dire, qui est entre 2015 et 2019-2020, où on a un intérêt qui est en train de se développer, beaucoup de sollicitations, beaucoup de travail sur la réglementation les liens avec les autorités politiques, avec les autorités de régulation. Et donc, en fait, là, c'est la période où on pose vraiment les bases de ce qu'est la finance durable aujourd'hui. Donc là, c'est une phase de construction assez importante, notamment en termes de régulation, mais pas seulement, aussi en termes de méthodologie. C'est le moment où on développe, par exemple, la méthodologie d'empreinte carbone d'un portefeuille. Ça n'existait pas, donc il a bien fallu le développer. Donc c'est cette période où on commence à utiliser ces outils de reporting et aussi des outils qui nous permettent de sélectionner des entreprises, des projets de façon un peu différente.
Dis-moi, Marc, Philippe, tu dis, d'après toi, la date charnière de 2015 est importante à cause des accords de Paris, à cause du discours de Marc Carney. Est-ce que 2015 est une date assez charnière de changement de cap si dans l'histoire de la finance durable?
Ah, clairement, oui, bien sûr. Oui, non, c'est un moment absolument crucial, Anne. Absolument crucial. On peut pas faire, de toute façon, on ne peut pas. Moi, je pense qu'il faut donner aux accords internationaux le rôle et la responsabilité qu'ils ont, c'est-à-dire surtout ne pas attendre d'eux qu'ils changent le monde en claquant des doigts, parce que c'est pas ce qu'ils savent faire. En revanche, sans accord international, sans cadre, on peut pas développer tout le reste. Ça n'existe pas. Il y a pas
d'impulsion.
Il y a pas de TCFD. Il y a pas de plan finance durable de la Commission européenne sans les accords de Paris. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Et on est en train de vivre la même chose, pareil, sur la biodiversité. C'est vrai que l'accord de Kunming-Montréal, c'est quand même un élément de base, une structure. À partir de ça, on peut commencer à construire et à ajouter des briques et à développer le reste. Mais on a besoin de ce cadre d'accords internationaux.
Et je ferai un rapport avec ce qui se passe un peu, la déconfiture de le net zero, l'entente net zero association où on voit des groupes d'assureurs, des grandes banques s'effriter. Tu crois que c'est quand même important ce genre d'initiative à l'international?
Je pense que c'est important. Enfin, disons que Je regarde ça positivement dans le sens où c'est mieux que d'avoir une série d'engagements individuels comme on commence à l'avoir dans les COP et qui n'aboutit pas à grand chose parce que plus personne n'y comprend rien et que plus personne n'est capable de faire un suivi de tous ces engagements. Donc aujourd'hui, effectivement, dans toutes ces grandes conférences, on a des gens qui arrivent, qui font une conférence de presse en disant je m'engage à ceci, je m'engage à cela, mais bon, à la fin, ce n'est pas très très constructif. Donc, le fait de d'encapsuler en fait ces engagements dans des coalitions est plutôt une bonne chose parce que ça permet de leur donner une lisibilité et de pouvoir les comparer les unes aux autres et donc d'avoir une vision un peu plus claire de ce qui se passe. Voilà. Bon, le problème, c'est que si ces coalitions ne s'appuient pas, encore une fois, sur un cadre juridique, étatique, réglementaire, fort, eh bien, on voit bien qu'ils ont tendance à s'effriter très vite. C'est clairement ce qui se passe avec la net zéro, les net zéro alliances. C'est que dès lors que elles sont attaquées par des États, comme c'est le cas aujourd'hui aux États-Unis, où très clairement, elles sont ciblées. Avec des outils qui sont des outils juridico-étatiques, comme ce qui est en train de se passer sur l'alliance des assureurs, où en fait beaucoup d'États américains ont mis en avant le fait que ça pouvait être des ententes illégales entre assureurs. Et bien là, on voit que ça s'effrite et ça n'a pas de structure suffisamment forte. Donc on a besoin, moi je crois, si on veut avancer, d'avoir une bonne combinaison entre les outils réglementaires d'un côté et les outils de marché de notre côté. Et c'est la combinaison des deux, voire même le dialogue entre les deux, qui peut permettre de construire des choses un petit peu solides. Si on a que l'un, que les structures réglementaires ou étatiques, et que le marché ne réagit pas, ça n'avancera pas à grand chose. Mais quand on a que des outils de marché et qui ne sont pas appuyés sur une structure politique, je crois que c'est assez faible aussi.
Ça rejoint une conviction qu'on partage avec Paul et qu'on évoque à chaque fois, de l'importance à la fois du régulateur, des États et des entrepreneurs et de l'innovation qui, on ne peut pas dire, je peux fonctionner qu'avec un, sans l'autre, ça ne marche pas. Donc, le rôle est toujours lié aux deux. Et justement, pour revenir là-dessus, en tant que à la fois leader et avant-gardiste sur le sujet de la finance durable, quel est le rôle de Mirova et comment on peut faire en tant que leader et avant-gardiste pour mettre en place des outils qui n'existent pas encore? Est-ce qu'on les invente? Est-ce qu'on s'appuie sur des innovations internes, des innovations groupées avec d'autres acteurs de la finance?
Deux choses. On conçoit Mirova comme une démarche à la fois business, mais aussi une démarche politique, au beau sens du terme politique, c'est-à-dire que c'est pas un hasard si on est devenu une société à mission, parce que on se sent à tort ou à raison porteur d'une mission, et donc cette mission, on l'a décrite il y a 10 ans, c'est de faire de la finance un outil pour rendre le monde meilleur, voilà. Et ça, si on se lève pas tous les matins en pensant à ça, je crois qu'on peut pas faire ce qu'on a fait. C'est pas juste uniquement le business qui peut nous pousser à faire ce qu'on a fait. La chance qu'on a aujourd'hui, enfin, qui est moi ma grande fierté, c'est que je crois qu'une très grande majorité des collaborateurs de Mirova, ils se lèvent le matin en pensant à ça, parce qu'on a été très attractif et que on a aujourd'hui tout un tas de jeunes qui sont venus. Beaucoup de jeunes, je dis jeunes parce que c'est beaucoup des jeunes qui sont venus bosser pour Mirova parce qu'ils avaient envie de travailler là et pas ailleurs, parce qu'ils se sont dit ok, voilà, j'ai une expertise, j'ai fait des études, je vais faire de la finance, mais c'est là que je veux faire de la finance parce que je veux avoir un impact, je veux que ça ait du sens. Donc ça, c'est le premier élément, je crois, essentiel. C'est une démarche de transformation, une démarche de sens. Le deuxième élément, c'est l'innovation. C'est que pour faire ça, il faut être en permanence à la frontière de l'innovation et aller s'attaquer à des nouvelles frontières. Donc ça a été un peu l'ADN de Mirova depuis le début, faire des tentatives, essayer, trouver des nouvelles méthodologies, des nouvelles classes d'actifs, des nouveaux produits. Et on a essayé de le faire avec une philosophie assez simple qui est collaborative et open source. Collaborative parce qu'en fait on pense que on peut pas tout faire tout seul et qu'on est petit, que voilà, et que il fallait chercher des expertises ailleurs. Alors ça peut être avec des consultants, ça peut être avec des pairs. On a fait beaucoup de choses avec des pairs aussi. Ce qu'on a fait sur la biodiversité récemment, par exemple, avec AXA, BNP, Sycomore, ben on a lancé une initiative sur comment est-ce qu'on mesure l'impact de la biodiversité, l'impact des entreprises sur la biodiversité. Donc collaborative, j'avais l'habitude de dire quand on avait créé Finance for Tomorrow, qui était l'institut de la finance durable parisienne, il y a quelques années, que les gagnants de la compétition ce seront ceux qui coopéreront le plus. Donc c'est la coopération qui sera le facteur déterminant du succès. Et puis le deuxième élément, c'est qu'on le fait open source, c'est-à-dire que ça, c'est un peu logique. C'est vu notre taille, on va pas faire des choses pour propriétaires. Ça n'aurait aucun intérêt. Et donc, quand on développe et qu'on co-développe des méthodologies, bien ensuite, elles ont vocation à devenir des standards de place ou des outils, en tout cas, à destination d'autres acteurs. Donc, c'est ce qu'on a fait sur l'empreinte carbone, sur la biodiversité, ce qu'on fait sur l'impact de la taxation des entreprises, ce qu'on vient de faire il y a quelques jours en lançant un appel d'offres pour mesurer les émissions évitées des entreprises. Voilà, donc c'est un peu cette démarche qu'on a dupliquée sur différents sujets.
Alors on était ensemble, j'ai pu assister à une conférence auquel tu étais participant pas plus tard que vendredi dernier, qui était j'ai trouvé ça très courageux de ta part. Tu étais l'introduction avait été faite par Timothée Parikh sur l'importance de la décroissance, et son introduction a été nous devons urgemment démanteler le capitalisme. L'intervenant d'après a évoqué que la finance ne pouvait pas être durable dans la mesure où le partage de la richesse n'était pas le bon. Et là, on t'a donné le micro. Et donc, j'ai trouvé ta réponse très intéressante et j'aimerais aussi qu'on puisse en rediscuter aujourd'hui. Comment la finance aujourd'hui peut réellement être durable? Alors, c'est une question un petit peu large, mais est-ce qu'il y a des fondements qu'il faut complètement revoir, ou est-ce qu'on peut l'adapter au fur et à mesure?
Bon, d'abord, le constat, c'est que on doit changer de modèle économique. Enfin, je pense que là-dessus, alors voilà, on peut être d'accord ou pas d'accord. Enfin bon, c'est une conviction qui maintenant est assez claire et assez forte. Un Français utilise l'équivalent de 3 planètes par an. C'est pire dans certains autres pays. On a des situations maintenant en termes de pollution, pollution plastique, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, au niveau climatique, les conséquences sur la nature et la biodiversité qui sont à un tel point catastrophique que se dire qu'on va réussir à passer à travers tout ça par des petites évolutions et des petits pas, je crois que ça me paraît être une énorme erreur. Alors, à la limite, je préfère presque ceux qui rêvent à une solution technologique radicale, en se disant il va y avoir une disruption technologique très forte dans les années à venir et en gros la technologie va nous sauver. Moi, je n'y crois pas, et en tout cas je parierais pas l'avenir de l'humanité sur un pari de ce type-là. Mais à la limite, ça peut s'entendre. En revanche, le fait de dire on va utiliser le modèle actuel, le faire évoluer légèrement pour pouvoir résoudre nos problèmes, ça je n'y crois pas. Je pense que ça ne fonctionnera pas. Donc on a besoin d'une forme de comment dire. Bon. Certains appellent ça de la décroissance, on peut appeler ça ce qu'on veut. On a besoin de revenir dans les limites planétaires. Aujourd'hui, il y a 9 limites planétaires, dont 6 ont été dépassées. Pas seulement le climat, mais la biodiversité, le cycle de l'eau, le cycle de l'azote. Donc 6 de ces limites planétaires sont dépassées. Il faut qu'on arrive à imaginer une économie qui revienne dans les limites planétaires. Alors, est-ce que la finance peut aider à faire ça? C'est extrêmement difficile parce que la finance, par principe, elle est un peu consubstantiellement liée à cette idée de croissance. Toutes les valorisations d'actifs que l'on fait quand on valorise une action ou un projet, une entreprise, c'est basé sur ben, l'actualisation de cash flow futur et on se dit ben, plus ces cash flows vont croître dans le temps, plus la valeur actuelle d'une entreprise ou d'un projet est élevée. Et donc on passe notre temps à parier sur la croissance future. Donc comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour faire de cet outil finance un outil qui aide à modifier la structure de l'économie? Déjà dans un premier temps, je pense en acceptant de faire des choix extrêmement radicaux. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se permettre d'utiliser cette finance qui, par définition, parie sur la croissance pour financer tout et n'importe quoi. Voilà. Parce que si on le fait, ben, on va donc faire croître tout et n'importe quoi. Et donc, ça donne une responsabilité encore plus forte à la finance. À partir du moment où elle est justement l'outil lié à la croissance, elle doit choisir ce qui doit croître. Et donc, elle doit choisir de faire l'allocation du capital. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'allocation du capital est quelque chose de clé. Et donc, d'allouer le capital dans les entreprises et les projets qui offrent des solutions et qui surtout sont cohérents avec ces limites planétaires. Voilà. Donc, après, est-ce qu'au-delà de ça, on peut imaginer une autre mode de finance qui serait une finance de la décroissance ou en tout cas une finance de la post-croissance? Peut-être, j'en sais rien. En tout cas, ça demande un peu plus d'imagination. Et alors là, ça demande de s'attaquer vraiment au cœur du système financier. Parce que le problème auquel on fait face aujourd'hui, c'est que toutes les évolutions qu'on a connues dans la finance ces 10, 15 dernières années, et donc qu'on appelle la finance durable, en fait, hein, ce sont des évolutions qui sont à la marge de ce système. Hein. On a inventé ce qui était une obligation verte, ça n'existait pas il y a 10 ans, on a inventé des sustainability linked bonds ensuite, donc on invente des outils complémentaires qui permettent d'apporter du capital de façon plus ciblée. Mais ça ne change pas du tout le fonctionnement du marché obligataire lui-même ou du marché des actions. Ça ne change pas le court-termisme de ces marchés. Ça ne change pas le fait qu'on continue à faire des opérations à la microseconde. Ça ne change pas le fait que beaucoup d'acteurs font des opérations extrêmement à court terme basées uniquement sur les résultats des entreprises qui sont publiés maintenant quasiment en temps réel. Donc, tout ça n'a pas complètement changé. Ça ne change pas le fait que les produits dérivés dont je parlais tout à l'heure restent un élément considérable des transactions qui sont effectuées sur les marchés. Et ça ne change pas le fait que les capitaux continuent à être extrêmement mobiles et à bouger à une vitesse absolument considérable. Donc, le fonctionnement des marchés reste lié à de la croissance et plus qu'à de la croissance, à ce que Timothée Parikh, moi je trouve assez intéressant dans son discours, il explique qu'en fait la croissance est une mesure de l'agitation. Et moi j'aime beaucoup cette image là. En physique on parle de mouvement brownien, donc on a des, c'est un peu comme la chaleur dans une pièce, hein. La chaleur dans une pièce, elle est liée à l'agitation des particules dans l'air de la pièce. Plus les particules bougent, plus en fait il fait chaud. Et ben là la croissance c'est un peu la même chose. Plus on s'agite, plus on échange des choses, de façon pas réellement indispensable ou nécessaire, plus on augmente cette croissance. Et donc la croissance n'augmente pas le bien-être, elle augmente l'agitation en fait des sociétés humaines. Et donc ça je crois que je trouve ça intéressant parce que ça montre que le tout ce débat sur la décroissance, sur on va revenir à la lampe à huile, c'est pas ça le sujet. On a besoin d'accroître le bien-être des populations, on a besoin d'accroître leur connaissance, on a besoin d'accroître leur capacité d'action. Ça, c'est l'histoire de l'humanité. Après, est-ce que on peut essayer de limiter un tout petit peu leur agitation? Je crois que ce serait pas une mauvaise chose.
Peut-être juste sur ce sujet, je pense qu'effectivement, structurellement, la finance est basée sur la croissance. Mais si cette croissance, comme un peu votre philosophe français Edgar Morin le disait dans son dernier petit bouquin, qui disait que il faut qu'il y ait une décroissance de certains secteurs, une décroissance rapide et une élimination de certains secteurs, et qu'il y ait une croissance rapide de d'autres secteurs qui sont ces secteurs qui, un, diminuent les impacts négatifs, mais aussi génèrent des impacts positifs en termes d'impact. Donc, la base de cette approche de transformer, de rediriger le capital auprès d'organisations qui diminuent et qui, en plus, génèrent des impacts négatifs, positifs, est quand même la théorie de ce qu'on appelle la transformation de la finance. Mais à la base de tout ça, je te demanderais, Philippe, qui est une des bases essentielles, et on est loin, et ce qui rejoint un peu l'activité de ce qu'on fait chez Impact, c'est cette transparence, cette non-complaisance du reporting d'impact qui soit sur une base standardisée ou à tout le moins comparable d'actifs, de pays et ainsi de suite. Donc, comment est-ce que tu vois le vrai défi de la finance qui va aller rediriger leur capital auprès d'organisations qui sont vers cette transformation? Et comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'il n'y ait pas justement de tricherie, quoi? Et ça passe par le reporting et l'alignement, comme on disait, de la collaboration de tous les acteurs financiers. On est loin du compte aujourd'hui. Donc, comment est-ce que tu vois ce défi?
Alors, on a un risque de greenwashing qui est aujourd'hui massif parce qu'en fait tout le monde s'intéresse au sujet, et donc à partir du moment où on généralise, eh bien il y a beaucoup de passagers clandestins et donc il y a effectivement un risque de greenwashing qui est très très fort. Et bien sûr, ce risque de greenwashing, les bonnes façons de le traiter, c'est de la réglementation et de la transparence et du reporting. Voilà, ce sont les différents outils qu'on a à notre disposition pour mettre un peu la lumière sur ceux qui font les choses bien et détecter, dénicher ceux qui font les choses pas bien. Alors, ça se passe dans un moment où, en parallèle de ça, on va être noyé sous l'information. Hein, je veux dire, j'entends depuis 15 ans que je travaille dans ce secteur de la finance durable, des gens me dire non mais tu comprends, on peut pas encore faire de la finance durable parce que on n'a pas les datas, et donc ben tant qu'on n'a pas les datas, on peut pas faire. Donc bon, d'une part, on peut faire beaucoup de choses sans les datas. Il faut quand même faire. Donc les datas ça aide, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec très peu de données. Mais surtout, là maintenant, aujourd'hui, les mêmes personnes qui ont répété inlassablement en manque de data sont en train de nous dire on a trop de data. Les mêmes, et dire maintenant c'est pas assez standardisé. Donc en fait, ils seront jamais contents. Enfin, soit ils en ont pas assez, soit ils en ont trop de toute façon. Donc la réalité, c'est quand on veut faire, on fait. Quand on veut pas faire, on fait pas. Voilà. Donc ça c'est la première chose, et on va être noyé sous les datas. On va être noyé sous les datas parce que on a d'un côté la réglementation qui va pousser les entreprises à produire de la donnée, donc c'est CSRD en Europe, c'est la comptabilité extra-financière, les FRAG, l'ISSB, donc toutes ces normes internationales qui sont en train de se développer et qui font que les entreprises vont produire de plus en plus de la donnée et que bon, on peut espérer qu'elle soit de mieux en mieux structurée, en tout cas, et de plus en plus comparable et, disons, facile à utiliser. On va avoir des bases de données potentiellement aussi ouvertes, voire gratuites, qui vont se mettre en place. C'est ESAP, le Single Point of Contact côté européen. C'est NZDPU, la Net Zero Alliance. Donc, il y a tout ça. C'est les données qui vont venir des entreprises. À côté de ça, on a aussi une multiplication extraordinaire qui est en train de se produire sur les données qui viennent de tiers. J'étais hier avec une entreprise qui fait de la production de données à partir d'observations satellites, où on arrive à observer à la fois le couvert forestier, la déforestation, mais aussi les émissions de méthane quasiment puits par puits au niveau des explorations pétrolières, l'évolution, comment les bateaux circulent, qu'est-ce qu'ils transportent, la construction des énergies renouvelables, panneaux solaires par panneaux solaires. Donc toutes ces informations-là, avant que l'on demandait aux entreprises, on n'a même plus besoin de les demander aux entreprises, on va avoir des tiers qui vont nous les fournir. Et donc cette combinaison de tout ça fait qu'on va être submergé par ces données-là, et à ça s'ajoutent des capacités de traitement qui sont inédites, là aussi, avec l'intelligence artificielle qui arrive et qui nous permet de faire des analyses et qui donc va encore mettre un facteur multiplicatif, si ce n'est pas exponentiel, à ces données. Donc je crois que on est confronté à ça. Je pense que c'est à la fois une bonne, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je crois que ça nous oblige à revenir à plus de simplicité, en revanche, dans ce que l'on cherche à faire. Parce que si quand on a effectivement cette complexité, cette multiplication de données, si nous on sait pas quoi faire avec ça, alors là on peut être effectivement noyé et on peut aboutir peut-être à des mauvaises décisions. En revanche, si on a une colonne vertébrale un peu claire et qu'on sait vers où on veut aller, alors je crois que ces données, ces éléments de reporting vont être quelque chose de très positif.
Alors, tu as déjà répondu en partie à cette dernière question, mais on a une dernière question un petit peu vaste et piège, mais je suis sûr que tu as une réponse très intéressante à nous donner. Concrètement, comme tu l'as dit, on est face à une situation où il y a énormément de défis et qu'il faut les régler de manière urgente. Quel est, selon toi, le point principal à modifier pour essayer de faire face à ces défis ?
C'est dans nos têtes que ça se passe, en fait. je pense que les points voilà. Modifiés. Mais oui, mais c'est bien, c'est malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, je veux dire, au bout du bout, on est des sociétés humaines, quoi. Donc, on peut dire que on peut changer la réglementation. Il y a plein de choses qu'on est en train de changer au niveau de la réglementation. On peut dire qu'on peut mettre l'accent sur les financements. Et donc apporter plus de financement aux solutions. On peut dire que l'accent, il faut le mettre sur la structure de fonctionnement des marchés financiers ou sur les accords entre les États. Je vais vous répondre un peu en m'auto-citant, mais j'ai écrit un petit bouquin il y a quelques mois qui s'appelle « Discours sur l'état de l'Union » où j'imagine le discours du président des États-Unis en janvier 2034. Et il fait le bilan des trois grands types d'actions qui ont été menées, donc qui se projettent, en 2034, les trois grands types d'actions qui ont été menées pour résoudre la crise climatique. Ces trois grands types d'actions, c'est quoi ? C'est un, la collaboration internationale, les COP. Deux, la technologie. Trois, les changements de comportement. Et en fait, il aboutit à la conclusion que malheureusement, alors c'est un peu une dystopie, aucun des trois ne fonctionne. Alors pourquoi ? Bah parce que les changements de comportement, il y en a, mais ils sont trop lents, et c'est très difficile de faire changer les gens et de leur dire d'arrêter de manger de la viande et de prendre l'avion, c'est très compliqué, à commencer par moi. La technologie, c'est très bien, c'est super, mais il y a des effets rebonds et puis ça peut résoudre le climat, mais ça résoudra certainement pas la crise de la relation des humains avec la nature, parce que ça demande encore plus de ressources en permanence. Donc c'est pas une solution complète non plus. Et la collaboration internationale, on voit où elle en est. C'est très bien, comme je le disais, c'est indispensable, comme on l'a vu sur l'accord de Paris, mais aujourd'hui, les États sont en train de se projeter dans l'après, sont en train d'imaginer que de toute façon, on va vers une vraie crise climatique, et dans l'après, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir une guerre pour l'accès aux ressources, et une guerre pour empêcher les migrations. Et donc, en fait, beaucoup d'États aujourd'hui, plutôt que de coopérer, se disent « je préfère me préparer à la situation d'après et donc me préparer à la guerre des ressources et à mettre des murs pour empêcher les migrants de rentrer chez moi ». Et donc, voilà, ce sont les trois sujets, les trois façons clés. Et il faut sans doute appuyer un petit peu sur les trois si on veut réussir. Mais au bout du bout, c'est dans nos têtes que ça se passe. C'est-à-dire, quand je dis dans nos têtes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la sincérité forte des dirigeants d'entreprises, des grands dirigeants de la planète, de se dire, en se levant le matin, encore une fois, je suis face à un enjeu historique, anthropologique, et je dois utiliser 90% de mon temps de cerveau disponible pour traiter ce sujet-là, on en est très loin. Et malheureusement, les grands dirigeants d'entreprises et de banques aujourd'hui continuent d'utiliser 90% de leur temps de cerveau disponible pour réfléchir à l'optimisation de leurs profits et pas à résoudre la crise climatique.
Bien, sur ces mots de la fin qui sont mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire positif et négatif, je vois que le philosophe en toi ressort, même si tu as étudié en stats et en maths. Merci beaucoup, Philippe. Vraiment, vraiment, ça a été fascinant. On aurait pu continuer des heures. Il y a un nombre infini de sujets sur lesquels on aurait pu continuer la conversation. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à vous.
Merci à tous d'avoir écouté cet épisode du podcast Enquête d'impact.
J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à l'enregistrer. N'hésitez pas à le partager sur l'ensemble des réseaux sociaux et à nous laisser des commentaires ou des idées pour de futurs invités.
À bientôt.
À très bientôt.